T'as vraiment la auntie qui va dealer le bang chung, t'as la auntie qui va faire « Oh, elle fait des kumquats, confit, tu peux essayer, etc. » On a vraiment ce truc-là de communauté.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Des arcs de fleurs par-dessus les rues, des pétards qui tapissent le fond de l'air, une frénésie ambiante, l'impression que le pays est en pause. C'est à ça que ressemblent au Vietnam les festivités du Tết, le Nouvel An, qui dure en tout 15 jours. C'est la fête la plus importante de l'année, bien plus que Noël ou encore le réveillon du 31. Dans les familles vietnamiennes, y compris dans la mienne qui vit en France, on prend très à cœur cette période, notamment en veillant à faire un grand ménage dans la maison avant et à bien se tenir le jour J, qui symbolise la teneur qu'aura le reste de l'année. Alors, on parle souvent du Nouvel An chinois, mais cette célébration ne s'arrête pas aux frontières de la Chine. Le Nouvel An lunaire est observé par différents pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, tels que les Philippines, la Corée du Sud, l'Indonésie, la Thaïlande ou encore donc le Vietnam. Dans ces pays, le calendrier est réglé sur les phases de la Lune. En gros, les mois sont des mois lunaires, c'est-à-dire que le premier jour de chaque mois correspond à la nouvelle lune, ce qui veut aussi dire que le 15e jour du mois est un soir de pleine lune. À l'arrivée, ça donne une année de 354 jours au lieu de 365. Pour s'y retrouver, il faut donc ajouter tous les 3 ans un mois pour que l'année lunaire coïncide avec l'année solaire. C'est pour ça que la date de ce nouvel an varie toujours entre fin janvier et fin février de notre calendrier, le calendrier grégorien. Et selon le calendrier lunisolaire, cette année sera sous le signe du buffle et de son élément, le métal. Partout dans le monde, les diasporas des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est, qui fêtent le nouvel an lunaire, organisent souvent de grands défilés pour marquer le coup. À Paris, j'ai toujours eu pour habitude de me rendre à celui du 13e arrondissement. C'est l'occasion de voir la danse du dragon, une espèce de grande parade qui met en scène un dragon immense, symbolisant le bonheur et la prospérité. Grâce à l'agilité des danseurs et des danseuses qui avancent en exécutant leur parfaite chorégraphie ou en portant le dragon pour l'animer, le spectacle est un flux continu de scènes à observer. Depuis toute petite, je suis impressionnée par ces défilés. Déjà parce que le dragon semble toujours très réaliste et que pour que ses mouvements sinueux soient fluides, c'est souvent une équipe de pratiquants d'arts martiaux qui s'en charge. Rien que la tête du dragon peut peser 14 kilos. Mais il y a une chose qui ajoute à ma fascination depuis toute petite. Pendant que le dragon exécute ses différentes figures, toutes codifiées, un gros tambour donne la cadence. Et quand j'étais enfant, ce bruit me faisait un peu peur. J'avais l'impression qu'il vibrait dans ma cage thoracique. C'est pour ça que j'aime chaque année aller voir ce défilé, pour retrouver un peu de cette peur douce et excitante devant le tambour et le dragon. Dans cet épisode, je suis allée voir Cran Ly, qui tient le restaurant The Hood à Paris. Cran Ly est franco-vietnamienne, alors en cette période où l'on ne peut pas faire de grandes tablées pour fêter le Tết, j'ai voulu discuter avec elle de souvenirs heureux liés à ce nouvel an lunaire. Ensemble, on a parlé des plats typiques qu'on sert au Tết, comme par exemple les banh chung, ces gâteaux de riz gluants qu'on mange avec des légumes vinaigrés. On a aussi évoqué la tradition des étrennes distribuées dans les enveloppes rouges, ou encore l'amour des fruits déjà coupés disposés sur les tables des familles vietnamiennes. J'ai commencé par demander à Cran Ly de nous raconter un souvenir du Tết.
Je venais d'emménager à Paris dans un petit studio il y a une dizaine d'années, je pense. Et on avait été dans le 13e, acheter plein de porc laqué, plein de canards laqués, du riz, des choses comme ça. Et on était juste rentrés chez moi tous ensemble. Et on avait juste tout réchauffé et mangé comme ça un buffet qu'on n'avait pas fait. Et on avait acheté des fruits exotiques, voilà, le truc un peu luxe. On avait acheté un jacquier, du durian, un peu vraiment le produit par excellence qui pour moi veut dire un bon tête aussi. Donc c'était vraiment ça, c'était tous ensemble manger beaucoup tout au long de la journée en buvant du thé, à papoter en famille. Et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs de tête, ouais, tout simplement.
Quels sont les plats que t'aimes le plus manger à cette occasion?
Alors, il y a des plats emblématiques qu'on mange beaucoup au Vietnam pour le Tết. Il y a le banh chung, c'est un gâteau à base de riz gluant qui est enveloppé dans une feuille de bananier. Et à l'intérieur, c'est garni avec de la viande de porc qui est souvent un peu grasse. Et des haricots mungo, qui est un petit haricot jaune, un peu farineux, mais très moelleux. un petit peu un goût d'amande, de noisette, et qu'on fait cuire à la vapeur et dans de l'eau aussi. Donc c'est un produit qui a beaucoup de goût et moi j'adore manger ça parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à faire et c'est un plat assez simple en fait, assez pauvre si on y pense, parce que c'est pas forcément des produits très nobles, mais qui a beaucoup d'arômes et qu'on peut manger à la vapeur ou grillé avec de la sauce soja. Je sais pas, moi ça vraiment c'est mon plat de tête. Après, il y a ce truc que j'adore, mais qui n'est pas un plat, qui est une confiserie qu'on mange pour le tête. Ça s'appelle mot, je crois, en vietnamien, avec à base de courge. Donc, c'est une courge confite au sucre. Je crois que ce serait l'équivalent en France des marrons glacés qu'on mange pour les fêtes de Noël. Et ben nous, on a ça avec du coco, des fruits de lotus. Donc, évidemment, l'équivalent exotique, hein. Mais moi j'adore ça parce que c'est vraiment le moment en fait où on papote avec du thé et ces petites confiseries et je sais pas, c'est un moment hyper hyper convivial.
Oui, j'adore moi aussi ces confiseries. D'ailleurs, je pense que toute petite, je savais même pas trop ce que c'était. J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était ouais, c'est ça, de la courge en fait, hein, des lamelles cuites et peut-être séchées aussi, peut-être. On peut aussi revenir sur le banchung dont tu parlais. Moi, ce que j'aime bien avec le banchung dans notre famille, c'est que chaque année, un peu à la même époque, à l'époque du Tet, ma mère, elle reçoit genre plusieurs textos de femmes en fait de la région, tu sais, qui genre tu sais les textos de dealers, genre quelqu'un a fait plein de banchung et l'idée c'est d'en commander à l'une d'entre elles et en général elle a toujours son idée sur celle qui a fait le meilleur ou celle de l'année dernière qui était un peu décevante. Toi aussi t'as ce genre de truc?
Alors ouais, du coup ça me c'est hyper familier parce que c'est exactement comme tu dis, t'as vraiment la auntie qui va dealer le banchung, t'as la auntie qui va faire oh elle fait des kumquats confits, tu peux essayer, etc. On a vraiment ce truc là de communauté et je pense que c'est il y a vraiment une préparation hyper longue et il y a ce truc où on veut toujours essayer de faire la même recette et de faire meilleur et de changer. Parfois t'as la petite tata qui va faire un truc un peu original et qui va mettre un truc qui va soit choquer toute la communauté ou soit faire oh mon dieu c'est trop bon, c'est trop une bonne idée. Donc tout le monde va critiquer, oh elle a raté, elle a trop cuit, oh le riz il est trop collant, oh le riz est pas assez collant. Donc c'est vraiment ce truc là et ça me fait rire parce que du coup j'ai plein de souvenirs de tata qui ont échoué ou qui ont réussi à merveille. Mais ouais non, j'ai aussi ça pour parce que j'ai la famille aux États-Unis en fait, comme beaucoup de familles asiatiques, surtout vietnamiennes, on a des diasporas partout et mes tantes nous envoient parfois des colis où tu sais t'as toujours un parent qui vient de visiter qui te dépose des trucs faits maison. Ouais, donc ça traverse même les frontières chez nous.
Mais oui, moi, je trouve ça génial parce que comme tu dis, c'est un truc assez, assez simple. Finalement, c'est du riz. Juste, on l'a laissé pendant longtemps avec ce cœur fait de viande de porc et de haricots mongo, bien salé, bien poivré. Donc, c'est facile à transporter. Il y a un côté cadeau aussi. Tu peux en offrir si tu te motives à en faire plein, une production familiale, t'en distribuer autour de toi. Et même quelques jours après, c'est encore très bon, revenu dans une poêle avec un peu de matière grasse, quoi. Est-ce que tu as déjà essayé d'en faire par toi-même? Essayer et réussir même d'ailleurs.
C'est pas, j'ai jamais fait toute seule de banchung parce que ça prend beaucoup de temps et il faut une armada de gens qui va manger le banchung surtout. Par contre, j'ai déjà tourné un documentaire pour le TET en 2018 au Vietnam et à cette occasion, on avait débarqué par surprise chez ma grand-mère. Et on avait fait un atelier de banchung avec ma famille. Donc, j'ai appris pour la première fois, en fait, à le faire là-bas, au Vietnam, juste avant le Tet. Et c'est très compliqué parce que c'est un procédé qui prend plusieurs jours. Il faut faire tremper le réglion avant pour qu'il soit ouvert. Et ensuite, il faut l'envelopper. Et en fait, on utilise une espèce d'armature en bois, en bambou. Donc, c'est comme un espèce de cadre qu'on utiliserait en pâtisserie ici, un cadre pâtissier, mais bien plus épais. Et on en sert vraiment le banchung dedans, enveloppé de ses feuilles de bananier, très fort. Et ensuite, on le cuit dans une eau très chaude, mais comme une espèce de cocotte un peu. Il faut qu'il y ait un peu de pression. Et ça cuit pendant assez longtemps. Et après, il ne faut pas le manger tout de suite non plus. Donc, il y a un vrai procédé parce que, comme tu disais, quand tu parlais des dealers de banchung, il y a ce truc aussi où, quand tu as une maison, une famille qui le fait bien, elle le fera aussi pour le quartier. Il y a ce truc un peu comme ça et chaque famille a un peu sa recette. Moi, j'ai goûté un peu des variantes avec d'autres garnitures aussi. Après, le emblématique, c'est vraiment porc et haricots mongo. Mais non, j'ai fait qu'en famille. C'est pas un truc dans lequel je m'aventurerais seule. J'aurais trop peur de l'échec.
Et puis, ce qui est terrible aussi, c'est quand une de ses tantes le rate une année, on lui en achète beaucoup moins l'année d'après. S'il y a vraiment une pression comme ça, ou à la fois ça peut être un peu mignon de se dire ouais, c'est un truc des tatas qui proposent toutes leurs recettes, mais c'est hyper sévère après le jugement. Que moi, je me rappelle d'une année où ma mère en avait acheté trois personnes différentes, et puis clairement, on avait analysé sur le podium lequel est le meilleur et digne d'intérêt d'être commandé l'année d'après. Alors oui, mais t'as vraiment de la chance d'en avoir fait au Vietnam, même pendant la période du Tet ou un peu avant. Raconte-nous un peu comment c'était. Alors, qu'est-ce que c'était que ce reportage exactement ? Et parle-nous aussi de comment c'était de l'ambiance du Tet au Vietnam, qui sont quand même des festivités de plusieurs jours.
Alors c'est très différent parce qu'au Vietnam, le Tet, c'est une fête nationale. Donc il y a, je crois, 3 jours où il n'y a rien. C'est plein de monde, mais en même temps, c'est désert. Tout le monde célèbre la fête du printemps. C'est intéressant parce que quand j'avais fait ce tournage-là, c'est VTV, qui est une chaîne nationale au Vietnam, qui m'avait invité à l'occasion. Pour ça, donc j'avais passé une semaine et demie là-bas, une semaine, et on avait tourné à Cần Thơ sur les marchés flottants, qui est assez emblématique en fait du sud du Vietnam parce que c'est très beau. T'as toutes ces gondoles qui distribuent, enfin qui vendent des produits, des fruits, des légumes, des fleurs, et tu peux même manger en fait sur les bateaux. Donc si tu passes en barque à côté d'un bateau qui fait un plat, tu peux le prendre aussi. Et on avait tourné, on avait visité plein de producteurs de nouilles, de riz. Donc c'était hyper intéressant même pour moi, parce que c'est des parties du Vietnam que j'avais pas forcément visitées avant. Et ensuite, on avait terminé à Saigon, la ville de ma grand-mère, où une grande partie de ma famille réside encore aujourd'hui, pour tourner vraiment ce moment en famille pour le Tet. Donc c'était un petit peu avant le Tet. Et du coup, ma famille avait vraiment tout décoré comme à l'occasion du Nouvel An. C'était rouge partout, doré, il y avait des fleurs, il y avait les enveloppes qui sont accrochées, qui s'appellent lisi. Tu sais, les enveloppes rouges avec de l'argent. Voilà les étrennes pour les enfants. Il y a vraiment cette ambiance de... Bah, malheureusement, j'ai pas pu passer le Nouvel An en Vietnam à ce moment-là. Donc j'ai dû partir avant pour retourner bosser ici, à Paris. Mais tout le monde était super triste parce que, oh là là, faut vraiment que tu fasses un Nouvel An un jour au Vietnam, tu vas voir, c'est incroyable. Il y a tellement d'animation dans la rue. Et j'avais eu l'occasion pour un autre documentaire que j'avais fait au Vietnam une autre année, d'assister à une finale en fait de football où l'équipe vietnamienne avait gagné en Asie. Déjà, c'était incroyable. C'était vraiment la Coupe du Monde. Il y avait des gens partout. On était dans un bus qui n'avançait pas. Et déjà, j'ai senti une espèce de liesse parce que... Le Vietnamien est hyper festif et c'est hyper fraternel aussi. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir réussi un truc ensemble parce que c'est un pays émergent. Et je pense que moi qui suis franco-vietnamienne, donc je ne suis pas à 100% vietnamienne, mais j'ai ressenti ça en allant là-bas. C'est qu'il y a un grand doute. C'est une communauté qui n'a pas forcément beaucoup confiance en elle, donc qui est prise de pas mal de doutes et en même temps d'arrogance. Parce que les Vietnamiens ont gagné toute leur guerre, hein. Et exactement une grande fierté d'avoir un peu essuyé toutes ces victoires. Et en même temps, il y a ce truc où est-ce que les plats vietnamiens c'est connu à l'étranger ? Est-ce que les gens ils connaissent le Vietnam ? Oui. Et c'est marrant parce que quand j'allais là-bas et que j'allais faire pas mal de conférences dans les universités, etc., pour faire des échanges, notamment avec l'ambassade de France à Hanoï. Et je me suis rendu compte que le jeune Vietnamien, c'est un battant. Et tout ce qu'il a envie, c'est que de parler de son pays en fait, à l'étranger. Donc ouais, ça je pense, ça ne m'étonne pas en fait, que le Nouvel An là-bas soit fabuleux. Du coup.
Et c'est vrai que c'est un moment hyper important là-bas. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en vivre un aussi. Mais c'est assez paradoxal, le côté très joyeux à l'intérieur des maisons. Et en même temps, les rues sont vides, parce que, en tout cas à Saigon, parce que soit les gens sont avec leur famille, soit ils sont partis aussi plus dans les campagnes rejoindre leur famille. Donc c'est quand même une ville qui grouille, quoi. C'est une ville très importante du sud du Vietnam. Et tout à coup, tu as l'impression qu'on l'a un peu mis sur pause, mais en même temps qu'il y a cette joie qui flotte un peu, parce que les gens vont d'un point A à un point B pour faire des courses, pour s'assurer qu'il y ait vraiment assez à manger à la maison. Il y a ce truc un peu de tout le monde se met un peu sur son 31. C'est hyper, hyper plaisant. Tu as parlé tout à l'heure des enveloppes rouges lisi. Je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que c'est quand même un truc très important dans l'image mentale qu'on peut se faire du Nouvel An asiatique. Est-ce que tu as des souvenirs de ça ? Est-ce que tu en as souvent reçu ou peut-être tu continues à en avoir ?
Alors, lisi, c'est vraiment le souvenir de... c'est un peu notre Noël, en fait, parce qu'en Asie, il n'y a pas trop Noël. Hein. Ce n'est pas un truc que moi, j'ai beaucoup fêté en famille. Un peu parfois par... parce que voilà, c'était à peu près dans l'esprit de Noël, mais pour nous, c'est vraiment important le Nouvel An. Et j'ai le souvenir de gamine où tu spots vraiment la petite enveloppe rouge comme ça, avec le petit dessin, la petite jonque, les dorures, etc. Tu la vois de loin, elle brille, et tu te dis « Ah !» Et quand t'es gamin, tu te rends pas compte trop de ce que c'est l'argent. Tu sais, pas très important, c'est plus le fait de recevoir quelque chose. Moi, j'ai une famille très, très modeste, donc j'avais pas trop de... mais pas beaucoup d'argent dans les enveloppes. Mais c'était vraiment le symbole qui est important. Ça pouvait être un petit mot ou un truc comme ça. Et moi, ça m'allait, en fait. C'est vraiment... Puis l'enveloppe est très jolie, pour être honnête. Donc moi, j'adore l'objet en tant que tel. Mais aujourd'hui, on a arrêté quand même. Je reçois plus rien de mes parents. Évidemment, ce qui compte aujourd'hui, je pense, c'est juste d'être ensemble, de passer un moment où on peut partager à manger. Et c'est un truc qui est hyper... qui connecte beaucoup, parce que il y a ce moment un peu rituel, hein, du lycée à la fin du repas. Donc souvent après que tes parents aient coupé des fruits, parce que voilà, c'est le parent asiatique qui va te couper des fruits pour te dire qu'il t'aime, il va te donner l'enveloppe pour rajouter une couche. Ah, je t'ai coupé du fruit, tiens, prends cet argent. Donc t'as vraiment ce truc un peu où t'as l'association d'idées, hein, assez parfaite, quoi. T'as des fruits exotiques, donc c'est que des parfums de mon enfance. Pour beaucoup de gens, le durian qui est le fruit des enfers. Moi, j'adore ça. Donc, c'est vrai que c'est un souvenir de plein de choses. Ici, c'est vraiment plus un instant qu'une simple enveloppe.
Moi, ça m'a fait quelque chose la dernière fois que je suis allée au Vietnam, donc il y a 2 ans maintenant, parce que c'était pour la première fois de ma vie, j'ai pu lissi, donc le verbe donner des étrennes. J'ai pu faire ça à tous mes cousins. Et du coup, je me suis vraiment sentie grande tout à coup, genre waouh, c'est à mon tour. Et c'est trop mignon comment ils font. Enfin, je sais pas si tout le monde fait ça dans toutes les familles au Vietnam, mais en fait, il et elle se mettaient à la queue leu-leu. Et chacun, en fait, du coup, venait chercher son enveloppe. Mais avant que je leur donne l'enveloppe, ben, ils formulaient un vœu pour moi. Donc, il y en avait un qui disait « J'espère que tu aimeras toujours le journalisme. » Ensuite, « J'espère que tu seras toujours heureuse en France. » Mais tu sais, des souhaits très précis. Ou, « J'espère que cette année, tu découvriras un morceau de musique que tu aimes autant que... blablabla, un truc qu'il aimait bien à l'époque. » Et ouais, et les fruits coupés dont tu parles, c'est clair, c'est... Moi, maintenant, j'ai tellement parfois la flemme aussi de couper des fruits parce que j'ai été trop habituée à ce que ma mère coupe tout, quoi. Des pamplemousses, elle va les dépiauter. L'ananas, ça va trop bien le faire, le couper en enlevant en plus tous les petits les yeux, là. Enfin, ouais. Je sais pas trop d'où ça vient, cette attention portée sur le fruit. C'est un vrai dessert chouchouté, quoi.
C'est intéressant parce que du coup, je me suis... pas mal posé la question, ce truc du fruit. Étant française quand même, les fruits, c'est pas non plus en France, on est à plus limité qu'en fruits exotiques, je pense, parce que les saisons aussi le permettent pas. Et les fruits exotiques, j'ai l'impression que c'est des fruits qui se méritent quand même. Il y a beaucoup d'épluchage. Dire que il y a pas beaucoup de fruits exotiques qu'on peut croquer directement. On peut pas croquer dans une mangue, dans un ananas, dans un litchi, dans un rambutan, on peut pas. Donc, c'est des fruits qui sont exigeants. Donc, il y a vraiment cette espèce de rituel, en fait, systématique. Et c'est pas des fruits qui sont aussi très attirants. Ça peut être un peu des fruits un peu repoussants, quoi. Des poils, une espèce de cabosse, très coloré. Donc, il y a une espèce d'hostilité un peu dans ce fruit. Donc, moi, l'image, en fait, que j'ai du parent qui coupe un fruit pour son enfant, enfin, étant asiatique, du coup, cette partie-là de moi, il y a vraiment ce truc. Oh, il a affronté le fruit pour moi, il a épluché, il a dépioté le truc, ça, c'est hyper laborieux. Et en même temps, voilà, toute la symbolique derrière, c'est ça, c'est j'ai pris le temps de faire ça pour toi. C'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé. Et il y a aussi un côté, c'est... comment un petit trésor, quoi, un bonbon en fait de la nature entre guillemets. Et nous en Asie, bah les desserts c'est quand même assez limité. Il y a pas de boulangerie pour ainsi dire, parce qu'il y a pas de céréales, il y a pas beaucoup de blé non plus, ni de produits laitiers. Donc c'est vrai que nos desserts sont toujours un peu les mêmes. Et le fruit, il y a vraiment cette variété qu'on retrouverait si on devait faire une comparaison un petit peu limitée, mais à la boulangerie, à la pâtisserie française. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment ce symbole de moi, mes parents parfois même s'ils me punissaient ou ils me faisaient la gueule, et ben quand on se réconciliait, c'était pas à travers des mots, c'était j'avais un plateau de fruits ah tiens, des fruits, bon ok, je t'ai pardonné, bon ok, je me suis emportée. Et c'était vraiment la symbolique de je fais un pas vers toi. Et, et c'est intéressant parce qu'en arrivant à Paris, le premier truc que j'avais envie de faire, c'est acheter des fruits tout le temps. Et c'est un truc, je suis un peu un petit singe à ce niveau-là. J'ai souvent des fruits à la maison et c'est important pour moi de finir autant que possible avec des fruits à la fin d'un repas. Donc, après, on est en France, c'est pas évident de trouver des mangoustans comme ça. Ouais. Mais bon, on se limite à ce qu'on a ici. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien garder et le transmettre, en fait, cet amour il y a un côté aussi, aimer la nature. Et parce qu'au Vietnam aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des arbres fruitiers dans leur jardin. Donc, c'est très naturel, en fait, d'aller dans ton jardin, prendre des fruits et les manger.
En raison du contexte sanitaire actuel, il n'y aura pas de défilé dans le 13e arrondissement à Paris. Mais qu'à cela ne tienne, je compte bien retrouver les bruits de tambour au moins via une vidéo YouTube que je lancerai sur mon ordi en même temps que je mangerai mon bánh chưng. Allez, bonne année du buffle de métal à toutes et à tous. Et merci à Cranly de nous avoir donné de son temps pour parler du tét. N'hésitez pas à aller découvrir sa cuisine si savoureuse au Hood, où je vous recommande en particulier le chicken rice et les kaya toast, au lait de coco et pandan. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Charlene Yao. Montage et mixage par Thibaut Delage, générique réalisé par Aurore Meyer-Maillot.